autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous interroger en cette semaine de rediffusion estivale, presque de farniente, sur nos rêves, ce que nous faisons toutes les nuits. Un quart de notre existence se passe à rêver. Mais de quoi ? Comment ? Et pourquoi tant de rêves étranges et pénétrants, comme le disait si bien Verlaine ? Ce n'est pas la clé des songes que nous avions cherché avec nos invités le 29 septembre dernier, mais plutôt ce que les récentes découvertes en neurosciences, en psychologie, en sciences des rêves, peuvent nous apprendre sur nos rêves les plus doux, comme sur nos plus terribles cauchemars. En compagnie du journaliste scientifique Guillaume Jacquemont, auteur de La science des rêves aux éditions Flammarion, et du psychologue et chercheur à l'INSERM Benjamin Putois, auteur d'un manuel de guérison des cauchemars paru aux éditions des Arènes, entretien croisé à réécouter, les yeux fermés si vous le voulez, autour de la question que sait-on de nos rêves, mais aussi de nos cauchemars. Bienvenue sur la planète des songes.
Pendant le rêve, on est dans l'histoire, ça c'est clair, on évolue dans un monde en trois dimensions que l'on pense réel, donc c'est plus fort que l'imagination. Je peux fermer mes yeux et imaginer un monstre, il m'impressionnera moins que quand j'y crois au moment où ça se passe. Donc c'est vrai que le cerveau se fait croire à lui-même un scénario, on pense que ça augmente la capacité du scénario à avoir une fonction d'apprentissage. On y croit, c'est en trois dimensions, on le critique pas et on éprouve les mêmes émotions que si ça se passait réellement. Donc vous voyez cette force du rêve par rapport à la simple imagination dans la journée.
La force du rêve, décrite par la professeure Isabelle Arnulf, la grande spécialiste du rêve et du sommeil, que vous avez rencontré, entre autres, pour écrire cet ouvrage, La science des rêves. Guillaume Jacquemont, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste à Cerveau et Psycho. Et c'est après une première rencontre pour un article avec Isabelle Arnulf, notre chercheuse de rêve préférée à nous aussi, que vous avez vous-même, Guillaume, plongé dans cette science des rêves, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, c'était un article sur lequel on a travaillé ensemble il y a quelques années. Et à cette occasion-là, elle m'a dit cette chose fascinante qu'on rêve plusieurs heures par nuit, en fait. Jusque-là, moi, j'avais cette idée que les rêves, c'était quelques minutes avant de se réveiller, par-ci, par-là. Et en fait, peut-être pendant plusieurs heures, peut-être même pendant presque toute la nuit, on est plongé dans ces histoires incroyables qu'Isabelle Arnulf décrit. Et j'ai trouvé cette idée absolument fascinante. Cette idée qu'on avait comme ça une vie, on partait toutes les nuits dans un grand voyage mental qu'on oubliait au fur et à mesure. J'ai trouvé ça vraiment très, très étonnant.
Et voilà pourquoi vous avez creusé la question en rencontrant les plus grands spécialistes, en faisant le point vraiment sur les dernières recherches sur cette science des rêves.
Tout à fait. Il y a un certain nombre d'équipes de recherche à travers le monde qui travaillent sur le sujet. Alors, ils ont des laboratoires où ils vont réveiller des gens toute la nuit pour s'enquérir de leurs rêves. Plus des gens qui tiennent des carnets de rêves à la maison. Et donc, j'ai interrogé un certain nombre de ces spécialistes, alors qui sont neurologues, psychologues, chercheurs en neurosciences, qui viennent d'horizons un peu différents. Et donc, j'ai passé en revue aussi toutes ces recherches qui sont publiées dans des revues spécialisées pour dégager ce paysage.
Et il y en a un sacré paysage onirique. Vous avez vous-même, Guillaume, mouillé votre chemise de nuit, si j'ose dire. Vous précisez en quatrième de couverture que pour cet ouvrage très sérieux, vous avez successivement visité la station spatiale internationale, combattu différents vampires, téléporté une banane, tiens donc, et même conversé avec vos ancêtres. Ça vous a fait des nuits chargées tout ça quand même, hein ?
Ça m'a fait des nuits chargées. J'ai aussi croisé Harrison Ford, je suis allé sur Mars, enfin quelques rêves comme ça assez amusants que je raconte en conclusion pour montrer à quel point cet univers est amusant et fascinant.
Fascinant, il fascine, nous fascine d'ailleurs tous. Il y a énormément de questions sur ce sujet, sur nos pages, sur notre réseau social. Alors, je ne sais pas si maintenant vous rêvez mieux ou plus, ou si vous vous en souvenez mieux de vos rêves, ou de vos cauchemars d'ailleurs, mais les cauchemars, en tout cas, c'est votre spécialité, si j'ose dire. Benjamin Putois, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être virtuellement avec nous, à distance, grâce à Reportit. Vous êtes, Benjamin Putois, psychologue, psychothérapeute, spécialisé dans les troubles du sommeil et dans les troubles traumatiques, chercheur en sciences cognitives, rattaché à l'INSERM. Vous venez de publier aux éditions des Arènes un ouvrage qui lui aussi devrait faire date, Manuel de guérison des cauchemars. Car les cauchemars peuvent être un véritable problème, mais pourquoi, à quoi ils servent et surtout comment ne plus en souffrir, comment en guérir ? Voilà ce que vous nous faites tout à fait scientifiquement découvrir, hein, Benjamin Putois.
Alors, découvrir, c'est une découverte pour la francophonie, je dirais, mm-hmm. puisque le manuel décrit une thérapie qui est reconnue, qui est attestée par l'Association américaine de médecine du sommeil, qui fait foi en la matière, comme étant la méthode la plus efficace pour guérir des cauchemars quand les cauchemars sont considérés comme traumatiques ou quand ils sont considérés comme pathologiques. En ce sens où, on va en reparler, c'est normal de faire des cauchemars. Alors trois fois, on considère c'est trois fois par mois, si les auditeurs ou leurs enfants font trois cauchemars par mois, on va pas s'inquiéter. Mm-hmm. Par contre, que si à partir du moment que ça commence à venir hebdomadaire, une fois par semaine, ou plus, les personnes qu'on rencontre en consultation font un cauchemar par nuit, voire plusieurs par nuit. Donc là, ça marque le sommeil et ça marque les journées du lendemain. Donc là, après, c'est une vraie maladie, c'est un vrai trouble du sommeil.
Et donc, l'on peut guérir, ou en tout cas en souffrir moins, on va voir comment. Quelle est la différence, peut-être pour qu'on comprenne bien, même si on reviendra sur le cas des cauchemars, entre un rêve et un cauchemar, Benjamin Putois ?
Alors, le cauchemar a un poids émotionnel angoissant, cultive un mal-être. Quand on se réveille suite à un cauchemar, on n'est pas bien. On est angoissé, on a la boule au ventre ou on a la poitrine qui serre. Et puis, potentiellement, on a du mal à se rendormir. Les enfants vont avoir besoin d'être réconfortés, soulagés par leurs parents. Ça amène des souvenirs désagréables. Et dans les cas pathologiques, eh bien, ça amène les personnes à avoir peur d'aller au lit, d'avoir peur du noir, d'avoir peur de se rendormir suite à un cauchemar, de peur que le scénario, je dirais, néfaste, continue. Donc, la différence, elle est vraiment, elle tient de l'impact émotionnel dans la vie des gens, parce que souffrir de cauchemars chroniques, eh bien, ça marque, oui.
Ça marque, et vous l'avez dit, Guillaume, on rêve beaucoup toutes les nuits, on cauchemarde pas beaucoup toutes les nuits, ça, non. Mais les rêves sont souvent négatifs, quand même.
Voilà, les rêves, on cauchemarde pas, dans le sens où, comme le dit Benjamin, un cauchemar, c'est vraiment quelque chose qui a un gros impact émotionnel. À un moment, on considérait que ça devait être tellement fort que ça réveillait le dormeur, c'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais on considère que c'est quand même quelque chose qui marque très négativement. Alors que dans les rêves, même si effectivement il y a beaucoup d'émotions négatives, parce qu'il y a des recherches sur des grandes banques de rêves qui ont montré qu'il y a deux fois plus d'émotions négatives que positives dans les rêves.
Ouais, donc deux fois plus de rêves négatifs entre guillemets que de rêves
voilà.
positifs.
Hein. C'est quelque chose considéré comme fonctionnel, que on considère que ça nous aide à digérer ces émotions négatives en fait. Tant qu'on ne se réveille pas et que ça ne devient pas un cauchemar comme ça. Donc il y a quand même un certain nombre d'émotions négatives dans les nuits et dans les rêves. Même si on ne considère pas que c'est toujours des cauchemars très pénalisants et très, très douloureux à vivre.
Autour de la question, que sait-on de nos rêves et de nos cauchemars, de cette vie onirique qui occupe, je le rappelle, un quart de notre existence, de tous ces films hein, finalement que l'on se projette chaque nuit et auxquels on croit dur comme fer, piste d'exploration cinématographique donc, avec cet extrait du film de Michael Gondry, qui a le même titre que votre ouvrage, Guillaume, et pour cause, La science des rêves.
Ce soir, nous allons étudier comment on fabrique les rêves. La plupart des gens croient que c'est simple et facile, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Une délicate combinaison de différents ingrédients, c'est ça la clé. D'abord, une bonne cuillerée de pensée éparse, à laquelle vous ajoutez une pincée de réminiscence de la journée, avec un nuage de souvenirs du passé. C'est pour deux personnes. Amour, sentiment, attachement et autres mots en main. De tout avec quelques chansons entendues la veille, des choses vues et une touche personnelle. Je crois que ça marche. C'est parti. Oui, oui. Je parle tout bas pour ne pas me réveiller. Je suis avec mon père. Oui. Papa? Je me rappelle. Mon père était là. C'est bon de le revoir dans son état normal, en bonne santé. J'avais presque oublié à quoi il ressemblait. Bon mec, non? Oui, on est à un concert. Un concert de Duke Ellington. Oui, Duke Ellington. L'orchestre attaque. Basse, batterie, tout y est. C'est génial. Ils ont un de ces swings. Et Duke entre en scène. Il rayonne dans son smoking blanc. Et le Duke, la dernière fois, c'était à l'Olympia, en 1958. Muchas gracias, mis hijitos, pour l'invitation. Oye, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas Duke Ellington. C'est un canard. Un canard Ellington. Papa, ce n'est pas Duke Ellington. Mais Duke Ellington. C'est un rêve. Qui? Je suis désolé, papa, mais tu es mort. Tu as perdu ton combat contre le cancer. Non, non, j'ai tellement pleuré que je me sentais mes larmes former des rivières sous mes yeux. Dans les rêves, les émotions vous submergent.
Il a bien raison, Michel Gondry, dans cette science des rêves, dans ce film. C'est pas mal tout de même comme rêve, comme recette de rêve. Qui veut réagir à cet extrait très juste, signé Michel Gondry, Guillaume Jacquemont?
Oui, tout à fait. Je trouve cette recette assez amusante parce que finalement, c'est assez proche de la vision qu'on en a. C'est-à-dire que on a montré que les rêves sont vraiment constitués de petits bouts de notre vie, d'un peu partout, qu'il y a beaucoup d'émotions dedans. Il y a même des études qui ont quantifié ça, qui montrent qu'il y a 40% du contenu des rêves qui est fait de petits bouts du jour écoulé, qu'ensuite, il y a des éléments, il y a 18% à peu près qui sont constitués d'éléments qui remontent à plus d'un an. Donc finalement, cette vision du rêve comme un mélange un peu bizarre de plein d'ingrédients de notre vie réelle, elle est assez réaliste et assez amusante.
Vous dites d'ailleurs, hein, Guillaume Jacquemont, qu'on ça mélange en fait toutes les cartes de notre vécu émotionnel. Ça mélange des éléments, comme il le dit tout à fait, de mémoire, de choses entendues, de choses qui nous remontent de l'intérieur, de choses qu'on a vécues. Enfin, c'est comme ça, c'est un puzzle, un patchwork. Là, on entend, ah, c'est un canard, c'est plus du Ellington, mais Duck Ellington, Duck en anglais, c'est un canard.
Enfin, oui, tout à fait, c'est un mélange. Alors, ça aurait peut-être même un rôle. Il y a des études qui montrent que justement, pour que donc les rêves nous serviraient notamment à digérer nos émotions négatives, et que pour les digérer plus facilement, ça les mélange à des éléments neutres. Donc, vous allez rêver, par exemple, d'un élément difficile, mélangé à quelque chose d'absolument neutre, un personnage que vous avez croisé, etc. Et donc ce serait une des raisons des associations bizarres qui se produisent dans les rêves. Et une autre raison, c'est peut-être que le rêve est très associatif, c'est-à-dire qu'on n'a plus une pensée aussi dirigée, logique qu'à l'éveil, où on a une zone cérébrale qui s'appelle le cortex préfrontal qui nous dirige cette pensée. Et les associations, tout ce qui est un peu associé dans notre cerveau est beaucoup plus libre de se substituer, de se mélanger. Et donc, c'est sans doute ça qui fait qu'il voit un canard Ellington à travers ce mot duck qui veut bien sûr dire canard et désigner le prénom du...
Alors, c'est vrai qu'on fait souvent des scénarios très, très bizarres dans les rêves, quoique... La même professeure Isabelle Arnulf que vous citez dans votre ouvrage, hein, Guillaume Jacquemont, La science des rêves, ouvrage dont, je vous rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Elle le dit elle-même, Isabelle Arnulf, que finalement, on fait pas tant... Enfin, on fait beaucoup de rêves bizarres, mais on a l'impression de ne faire que des rêves bizarres, or c'est pas le cas, c'est ça?
Tout à fait. On considère qu'il y a à peu près 20% de bizarrerie dans les rêves. Et que beaucoup de rêves représentent un peu notre vie quotidienne. Mais il faut bien se rendre compte qu'on rêve beaucoup, encore une fois. On rêve peut-être 6 heures par nuit. Donc même
c'est
si,
énorme.
C'est énorme. Et même s'il y a 20% de rêves bizarres, entre guillemets, ça va vous laisser quand même une petite récolte assez amusante au matin. Et effectivement, c'est ces rêves-là dont on va avoir tendance à se souvenir parce qu'on va soudain faire des trucs incroyables, se s'envoler, se téléporter, croiser des gens qui se changent en canard. Donc forcément, c'est un peu plus mémorable que quand vous rêverez de vous être lavé les dents ou de scènes très quotidiennes.
Et en fait, Benjamin Putois, j'ai envie de vous faire réagir à tout ça et vous demander si finalement on cherche à interpréter ses rêves, mais c'est peut-être pas ça, non pas qu'il faut faire, mais c'est peut-être pas ça que nous disent nos rêves, c'est peut-être pas ce qui est évident. Qu'en pensez-vous ?
Comme l'a très bien dit Guillaume, le rêve procède à digérer les émotions et essentiellement des émotions qui sont tirées des derniers jours qui se sont écoulés dans notre quotidien. Et donc c'est le rêve a vraiment la fonction d'erreur, en tout cas la fonction cognitive, eh bien mélange constamment toutes, et vraiment plus grand, dans les plus grands des hasards, toutes ces représentations mentales qui sont activées. Donc il est vain de chercher à, en tout cas pour traiter les cauchemars, il est inutile de chercher à décoder une symbolique des rêves. En tout cas, on a aucune preuve à l'appui scientifique. Irait dans ce sens-là, oui, tout à fait.
Beaucoup de nos auditeurs, et même notre réalisateur à l'autre côté de la vitre, Olivier Roux, disent qu'ils ne se rappellent pas de leurs rêves. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Eh bien non, c'est bon signe. C'est bon signe.
Ouais, il est content, Olivier. Allez-y, continuez, Benjamin.
si on considère que la fonction principale du rêve est de digérer, eh bien, quand la digestion se passe bien, eh bien, vous pensez bien que vous ne rappelez pas de ce que vous avez digéré il y a 3 jours de ça, ou ne serait-ce de la veille. Tout ça passe comme une lettre à la poste. Par contre, si vous avez des éléments difficiles à digérer, des émotions qui sont lourdes, qui peuvent engendrer des cauchemars chroniques, eh bien là, ces éléments négatifs intenses, eh bien, vous allez vous en rappeler comme une mauvaise digestion.
Ah, l'image de la digestion, elle est géniale, parce qu'en fait, on comprend très bien comment on digère ou pas, comment certaines mémoires nous reviennent aussi ou pas, par association d'idées. Voilà, on digère en mélangeant tous les aliments possibles. On pourrait dire ça comme ça aussi, Guillaume.
C'est un peu ça. Et à la fin, on a souvent un souvenir qui est pacifié, en fait, qui est mieux accepté émotionnellement, parce que le fait de l'avoir revécu comme ça pendant le sommeil, avec ces mélanges-là, aussi avec d'autres astuces du cerveau dont les concentrations de certaines substances cérébrales vont être moins fortes, ce qui va permettre de le revivre avec moins de stress pendant la nuit et pendant les rêves. Et tout ça aboutit à un souvenir justement dont l'impact sur nous émotionnel est moins fort qu'avant.
Ben on va y revenir parce qu'il en est évidemment aussi question dans le manuel de guérison des cauchemars de Benjamin Putois autour de la question de nos rêves et de nos cauchemars sur RFI. On écoute Madame Rêve, Alain Bachung, évidemment. On évitera de s'arrêter sur le contenu, hein, s'il vous plaît.
Les deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Comme si c'était tout comme dans les prières qui emprisonne et vous libère.
Madame Rêve, Alain Bachung, sur RFI, autour de la question de nos rêves et de nos cauchemars. C'est votre très joli choix musical, Benjamin Putois. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que le texte est magnifique, tout aussi magnifique et ambigu. Le rêve peut nous amener des exaltations. On a envie de rêver, bien sûr, dans tous les sens du terme, dans la vie. Et néanmoins, quand vous entendez bien cette chanson, eh bien, c'est assez sinistre ce qu'il y a derrière. Hein. Les dernières phrases qu'on a entendues, là, qui emprisonnent et vous libèrent. Alors oui, ça peut nous libérer, c'est la fonction de digestion onirique. Mais quand vous souffrez de cauchemars, toutes les nuits, c'est le mauvais rendez-vous. Et là, vous êtes emprisonné. Et bon nombre de personnes qui souffrent de troubles traumatiques, eh bien, sont enfermées dans leur passé. Hein. Les cauchemars ravivent des événements extrêmement difficiles de leur vie. Alors, ça peut être aussi le mauvais rendez-vous.
Eh oui, alors comment en sortir, justement, de ces mauvais rendez-vous, de ces prisons de cauchemars ? Benjamin Putois, avant d'en venir précisément à votre manuel de guérison des cauchemars, hein, méthode tout à fait scientifique, je propose d'écouter à nouveau la professeure Isabelle Arnulf, que nous avions reçue, c'était au début de l'année 2016, après les attentats terroristes qui ont frappé Paris puis Bruxelles, autour de la question, justement, des cauchemars et des différentes forme de cauchemar. Je propose d'écouter Isabelle Arnulf et vous réagirez ensuite.
Quand une personne dit « j'ai des cauchemars », derrière ce mot-là, il y a beaucoup de possibilités. Et le plus classique étant, bien sûr, ces rêves très désagréables qui réveillent en fin de nuit ou en milieu de nuit avec des longs scénarios où ils sont emprisonnés, où il y a du sang, etc. Mais les personnes qui viennent voir pour des cauchemars se font aussi référence, par exemple, aux terreurs nocturnes, où là, il y a des hurlements dans la nuit, et les scénarios sont très brefs. Généralement, le plafond s'écroule, ou il y a un tsunami tout d'un coup, ou il y a un train qui passe dans la pièce et qui va écraser tout le monde. Donc, des scènes beaucoup plus brèves, et puis la personne s'assoit sur le lit, ou crie, ou sort du lit. Il y a des manifestations physiques, hein, visibles. Elle a le cœur qui bat très vite. Il y a aussi ces personnes qui ont des combats dans leur sommeil, qui sont agressées par des personnes, des animaux, et puis qui vont donner des coups de poing en échange, sauf qu'au lieu de tuer l'animal, ça va donner un coup de poing à l'épouse qui est dans le lit à côté, calmement.
Voilà pourquoi on peut parfois venir vous consulter, non seulement parce que c'est gênant pour le dormeur, mais pour celui qui dort à côté.
Exactement, donc ça c'est vraiment les cauchemars en acte, hein, avec une extériorisation. Et puis il y a les personnes qui font des cauchemars en fermant leurs yeux, en s'endormant, ce sont des hallucinations très particulières et désagréables. Il y a beaucoup des intrus autour du lit, ce genre de phénomène, et puis il y a les paralysies du sommeil que tout le monde peut faire, où on a le sentiment d'être ligoté, de ne pas pouvoir bouger et d'avoir un poids qui écrase la poitrine, ou une possession diabolique, hein, qui est ressentie comme ça et qui donc traduit un autre phénomène nocturne que les gens appellent cauchemar. Et puis, il y a les cauchemars qui sont liés à la prise de médicaments, à un stress récent, à tout ce qui est terrible qui arrive actuellement.
Au traumatisme, vous êtes lié notamment aux attentats, comme ceux qui se déroulent en ce moment.
Exactement.
À Bruxelles, vous soignez d'ailleurs, je crois, aussi.
Oui, nous soignons les victimes post-Bataclan, hein, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de récurrences des scènes traumatiques. Vous vivez un cauchemar réveillé, et comme on retraite beaucoup pendant le sommeil tout ce qu'on vit dans la journée, il y a de toutes sortes de reviviscences qui vont de simplement revivre la scène jusqu'à réimaginer des scénarios plus complexes où on va se défendre, où on va...
Et on peut faire quelque chose contre ces cauchemars-là
Oui. Oui, c'est ça un petit peu la nouvelle qu'on voulait vous dire, c'est que oui, il y a maintenant des techniques pour soigner les cauchemars qui sont extrêmement efficaces.
Benjamin Putois, alors quelles sont ces techniques très efficaces? Vous venez de publier le manuel de guérison des cauchemars, des méthodes qui ont fait leurs preuves, hein, qui sont scientifiques.
Oui, elles ont fait leurs preuves. On a une accumulation de données scientifiques depuis une trentaine d'années qui vont dans le sens que, à l'heure actuelle, la thérapie de rescénarisation par image mentale est la plus efficace. Alors la plus efficace, qu'est-ce que ça veut dire?
Juste Benjamin Putois, oui. Rescénarisation par image mentale, c'est-à-dire qu'on rescénarise, on change le contenu ou la fin de son rêve, c'est ça? De son cauchemar plutôt.
Alors, c'est une thérapie qui se déroule en trois étapes. La première, c'est de revisiter ses croyances par rapport au cauchemar. La deuxième, c'est de monopoliser sa capacité d'image mentale visuelle. Donc, sa capacité d'imagination, ses capacités de fermer les yeux que nous avons tous et d'imaginer des choses, des scénarios, des films, comme on l'a évoqué au début de l'émission. Donc, il s'agit vraiment de reprendre le contrôle de cette capacité-là, car quand vous souffrez de cauchemars chroniques, eh bien, vous êtes envahi. Vous avez des images intrusives de vos nuits qui vous terrassent et qui vous angoissent. Donc, il y a vraiment une première phase de reprise de contrôle et d'entraînement, et pour aboutir sur une rescénarisation des cauchemars. Donc les personnes à l'état d'éveil.
On refait l'histoire.
Alors on s'arme de courage pour affronter ces cauchemars, pour les voir à nouveau, parce qu'il y a un processus d'évitement qui est très très important. On ne peut pas revoir les choses qui nous font mal. Et donc on se réexpose au cauchemar et on réinvente un nouveau scénario. C'est-à-dire que ce principe de mélanger des émotions au cours du sommeil, paradoxal, au cours des rêves, eh bien on le reproduit la journée. Et on va le répéter sur plusieurs jours. C'est pas une thérapie qui prend des années, ça reste une thérapie brève, mais il faut quand même monopoliser entre 1 et 3 mois quotidiennement, 5 à 15 minutes par jour, pour répéter ces nouveaux scénarios, ces nouveaux patchworks, comme vous l'avez mentionné, pour incorporer des éléments positifs au cours de notre sommeil paradoxal, et ce qui va, entre guillemets, relancer la machine des rêves.
Et ça marche, vous l'avez constaté sur nombre de vos patients, hein, c'est pour ça que vous publiez ce manuel de guérison des cauchemars. Je pense qu'il faut quand même être accompagné, mais en lisant ce manuel, et surtout finalement en expérimentant, hein, en faisant les exercices de visualisation, on peut arriver à rescénariser ces cauchemars et finalement à digérer les émotions liées, c'est ça?
Oui. Alors, ça marche. Moi, quand j'ai vu les premiers résultats scientifiques, je n'y ai pas cru. C'est pour ça qu'on a procédé à une validation française et indépendante de cette méthode, hein, avec une étude qui a été financée par la Fondation Vinci Autoroute. Et on a testé chez une soixantaine de personnes, par télépsychologie, par visioconférence, cette méthode. On a obtenu de très bons résultats, semblables aux études précédentes. Environ 70% des personnes qui suivent la méthode eh bien, réduisent 60% de leur cauchemar. Alors, la bonne nouvelle, et ça qui m'avait aussi très très étonné quand j'avais vu les premiers résultats, c'est que on ne s'arrête pas là. La méthode va réduire les cauchemars, réduire leur intensité, leur fréquence, mais les personnes vont mieux dormir. Elles vont moins souffrir d'insomnie associée. Et résultat le plus étonnant, étonnant parce que vraiment contradictoire avec les dogmes de la psychanalyse, eh bien on observe une réduction des autres symptômes des états de stress post-traumatique. Donc oui, c'est une méthode qui est attestée comme efficace. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans les cas sévères ou quand les cauchemars sont associés à des troubles traumatiques, à des événements difficiles de la vie, c'est nécessaire d'être accompagné par un psychiatre ou un psychothérapeute formé. Oui. Mais néanmoins, quand les cauchemars eh bien, sont primaires, sont pas forcément en lien avec des événements du passé, quand les gens ont tourné les pages de ce fâcheux passé, pourrions nous dire, eh bien, en suivant la méthode par un guide, tel que le livre ou un manuel, eh bien, on obtient de très très bons résultats. Hein. Ça, ce sont des résultats hollandais là, de l'équipe de Lanceux.
Donc ça, c'est effectivement très très encourageant. C'est encourageant aussi pour les enfants, hein, parce qu'on a tous eu des enfants qui font des cauchemars, et des fois, ça peut être effectivement très handicapant pour la vie. Ça montre aussi, je trouve, l'importance des rêves et des cauchemars dans le reste de notre vie. C'est-à-dire, ça montre à la fois l'importance de nos nuits par rapport à nos jours et de nos jours par rapport à nos nuits. Enfin, les deux sont complètement liés, Guillaume.
Les deux sont complètement liés, oui. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait, d'une part, que ça nous aide à digérer les émotions négatives, d'autre part, que c'est construit à partir de bouts de notre réalité, à partir de bouts de notre vie éveillée. Et ensuite, il y a plein d'autres fonctions qui ont été proposées pour le rêve, qui montrent
que... Par exemple
que... Alors, par exemple, pour rester dans les émotions négatives, il y a ce qu'on appelle la théorie de la simulation de la menace. Les rêves nous aideraient à simuler tout ce qui peut nous arriver de mal. Il y a une expérience assez amusante d'Isabelle Arnulf, d'ailleurs, où elle montre que les étudiants qui rêvent de leurs examens universitaires, souvent sous forme de cauchemar, les réussissent mieux que les autres.
Donc derrière... quand on rêve qu'on rate, c'est comme si on s'était préparé à rater, et du coup, c'est pas ça qui va se passer. Donc c'est pas des rêves prémonitoires.
C'est pas du tout des rêves prémonitoires, au contraire. On rêve effectivement de tout ce qui peut aller mal, et donc on est mieux affronté mieux préparé pour l'affronter. Et ça, moi, je trouve que c'est un résultat très consolant, parce que je pense que ça nous est tous arrivé de rêver d'une catastrophe avant une échéance un peu importante.
Oui, il y a des patterns comme ça. Enfin, il y a des gens qui rêvent que, je sais pas, qu'ils ont raté le bac, ou moi, je vais rêver que j'arrive sans papier devant mon micro, ou un acteur va arriver qui sait plus son texte. Enfin, j'imagine que tout le monde, dans sa profession, a des rêves
comme ça, un peu catastrophiques.
Et donc, c'est pour pour gérer cette angoisse-là, finalement.
D'une part, pour gérer l'angoisse, et puis pour imaginer un peu tous les scénarios qui pourraient se dérouler. Et il y a aussi William Demande, qui est un des grands chercheurs sur le rêve, qui avait une citation intéressante qui disait que la fonction des rêves pourrait nous permettre d'expérimenter les alternatives du futur dans le réalisme extrême du rêve, et ainsi de faire des choix plus éclairés. Et lui parlait en connaissance de cause, parce que c'était un gros fumeur, et à l'époque, il avait rêvé d'avoir un cancer du poumon, et il s'était vu, quand on lui annonçait cette tumeur, il s'était vu... Ne plus pouvoir voir grandir ses enfants, il s'était vu mourir suite à ce cancer, et le lendemain, il a arrêté de fumer tout de suite. Donc, tout ça montre que les rêves ont un certain nombre de fonctions. Alors, il y en a d'autres qui ont été proposées. La créativité, les rêves, ça nous fournit plein d'idées nouvelles, incroyables. Il y a des fonctions sociales aussi, il y a toute une... Il a été proposé que le rêve stimule l'empathie, notamment parce que vous allez vous mettre à la place des autres, vous allez même parfois rêver d'être quelqu'un d'autre. C'est pareil, Isabelle Arnulf cite des histoires incroyables d'un mari qui rêve d'être à la place de sa femme enceinte et d'accoucher à sa place. Donc tout ça nous aide à comprendre un peu ce que vivent les autres. Il y a d'autres choses, le fait de se raconter ses rêves aussi, ça a montré que ça stimulait l'empathie qu'on avait l'un pour l'autre, ça a même montré que... Au sein du couple, ça augmentait la satisfaction dans le couple, ça créait vraiment un espace d'intimité et d'échange.
De raconter ses rêves à son partenaire, à son ami, le matin en se réveillant.
Voilà, c'est...
De partager ses rêves.
De partager ses rêves.
Dans tous les sens du terme. J'ai envie de m'arrêter là-dessus avant de vous faire réagir, hein, parce que j'ai vu que vous êtes toujours en ligne avec nous, Benjamin Putois. Mais comme vous avez parlé de ces rêves qui préparent le futur, je ne résiste pas à vous faire passer ce que nous a dit ici même dans ce studio l'ethnopsychiatre Toby Nathan. Parce que pour lui, j'adore cette expression, les rêves, ce sont les brouillons du lendemain. Je vous propose d'écouter Toby Nathan et sa nouvelle interprétation des rêves qui a été publiée chez Odile Jacob.
Je crois que de ce qu'on a compris du rêve, de ce qu'on a compris à partir des nouvelles recherches sur les neurosciences, mais aussi là où elle concorde, si vous voulez, avec les éléments des traditions les plus anciennes. Vous savez qu'on a les premières interprétations de rêve qui datent de 2000 avant Jésus-Christ. Il y a déjà des textes sur l'interprétation du rêve en 2000 avant Jésus-Christ.
Les hommes ont toujours cherché.
Évidemment, ça tombe sous le sens, en fait. Hein. Donc, toutes ces traditions qui sont confortées, au fond, par les recherches actuelles, laissent penser que, en fait, on s'endort avec les questions qui nous occupent, les questions importantes pour nous, de notre travail, de notre vie familiale, du monde aussi. Parfois, on s'intéresse au monde. Parfois, quand on a des responsabilités, encore plus. Enfin, bon, on s'endort avec ça. Et le rêve va tout démonter en petits fragments et va proposer des nouvelles constructions, en fait. Il va construire des mondes possibles. Il va dire, et si c'était comme ça? Et si c'était comme ça? À chaque fois, il fait des hypothèses possibles. Donc, il se projette dans le lendemain. Et le lendemain, parfois, vous arrivez à voir les choses autrement et donc à résoudre une question que vous ne saviez pas résoudre la veille. Et c'est à ça, essentiellement, que servent les rêves, à changer l'automaticité de votre pensée de la veille.
D'où l'intérêt de les écouter, rappeler.
Ah oui.
On comprend aussi pourquoi c'est tellement en fragments, tellement bizarre parfois, parce qu'effectivement, si ça éclate en multiples univers possibles, notre réalité, effectivement, ça ne peut être qu'étrange, mais il faut les écouter, les interpréter, s'en servir, savoir ce qu'on a rêvé.
C'est complexe, oui, mais on peut en faire l'expérience. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne fait qu'un rêve par nuit, c'est-à-dire on en fait cinq, mais c'est...
Le même éclaté.
C'est le même avec les différentes hypothèses qu'on a brassées.
Je ne suis pas certain
de ça, mais il y a des gens qui pensent comme ça. C'était le cas de Joseph, par exemple, qui, quand il interprète le rêve de Pharaon...
Dans la Bible,
dans le Coran aussi. Hein, il pense ça, et il dit à Pharaon, les deux rêves que tu as faits sont le même rêve. C'est-à-dire, il y a une première tentative, une première construction, et puis on s'arrête... On se réendort, on redescend dans le sommeil, on refait un second rêve, et c'est une deuxième tentative, comme si le rêve faisait des hypothèses, il construisait des hypothèses pour le lendemain. Alors, on se réveille avec ça à l'intérieur, donc ça nous donne une force supérieure, mais si on en est conscient, et si surtout quelqu'un arrive à le faire aboutir dans la vie éveillée, alors là... On est extrêmement créatif. Ne vous privez pas de votre créativité. Analysez vos rêves.
Chers amis auditeurs, on ne peut que suivre ce joli conseil de Toby Nathan. Vous voulez réagir, Guillaume Jacquemont, à ce que vient de dire, enfin c'est son point de vue, hein, l'ethnopsychiatre Toby Nathan. Et brouillon du lendemain pour un rêve, ça me plaît beaucoup.
Le brouillon du lendemain, c'est une jolie expression. Et c'est vrai que une des fonctions proposées, c'est ce que je vous disais, cette anticipation, cette simulation de tout ce qui pourrait arriver. Donc en ce sens, oui, c'est un brouillon du lendemain. Alors d'une part, soyons bien clairs que c'est un brouillon, c'est pas la version définitive, parce que les rêves ont tendance à dramatiser, vont imaginer plein de choses bizarres, dramatiques, tout ce que vous voulez. Et si vous prenez tout ce dont vous avez rêvé pour argent comptant, vous vous préparez des journées un peu sombres.
C'est ça, c'est le pire que ça imagine ou que ça met en scène.
Voilà, ça met en scène et ça brasse un peu tout ce qu'on est, tout ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est des possibilités, ça arrive, ça arrive pas, tout dépend ensuite. Et l'autre chose, c'est que c'est probablement une des fonctions, mais probablement pas la seule, puisque c'est un peu ce qu'on disait, ça nous aide aussi à digérer le passé, les émotions négatives notamment qu'on a vécues. Et en fait... Beaucoup d'experts aujourd'hui se disent que les rêves n'ont peut-être pas qu'une fonction, finalement. C'est une pensée du sommeil qui dure pendant 6-7 heures par nuit, peut-être, qu'on rêve en plus dans des états très différents, parce qu'entre les rêves du sommeil paradoxal, les rêves du sommeil lent, ça ne va pas être les mêmes. Donc, il y a probablement plusieurs fonctions.
Benjamin Putois, j'ai envie évidemment de vous entendre là-dessus, parce que évidemment que c'est paradoxal, que c'est multi, qu'il n'y a pas il y a de multiples raisons, enfin entre guillemets, de multiples fonctions au rêve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce brouillon du lendemain, de cette digestion des traumatismes passés, puisque c'est là-dessus que vous travaillez.
Oui, après, bon, pour anticiper le passé, si le rêve est une machine à digérer, comme vraiment le atteste, vraiment c'est un faisceau de preuves neuroscientifiques, eh bien, on doit digérer nos anticipations, ce qu'on a anticipé le lendemain, ce qu'on a imaginé pour nous de pire du lendemain. Donc, ça nécessite ce travail du rêve. Et cette jolie phrase, hein, le rêve, c'est le brouillon du lendemain, eh bien, fait appel en miroir à ce que les personnes vivent quand elles souffrent de cauchemars chroniques.
Ah oui.
Et fait appel, je dirais, à plutôt, quand ça ne marche pas, le rêve, ça ne peut pas être le brouillon du lendemain, ça ne peut être que la révocation de blessures du passé quand ils sont traumatiques qui se réveillent de nuit.
C'est-à-dire, Benjamin Putois, que le cauchemar, ça serait effectivement un raté. Enfin, on n'arrive pas à digérer.
C'est un raté, ça s'enlise comme quand on tombe dans une ornière en voiture on va tomber de plus en plus profondément et on va avoir du mal à s'en sortir. Donc le cauchemar fait toujours appel à un autre cauchemar et à un autre. Et sans qu'on ait rencontré des événements fâcheux dans la vie, des événements traumatiques, eh bien, on peut commencer à s'enliser dans ce processus et puis rester dans les mêmes thématiques et rester enfermé et emprisonné.
Et donc pour digérer, il faut essayer de revivre à l'état éveillé, de changer. On va parler dans quelques instants de ce qui est rêve lucide, c'est encore autre chose, mais essayer de reprendre la main finalement quelque part sur ce qui nous échappe complètement, c'est-à-dire nos rêves.
Tout à fait, c'est relancer la capacité d'imagination et c'est de relancer ce mélange des représentations positives et négatives à l'état d'éveil. C'est la méthode aboutit sur une réflexion sur la créativité et sur aussi les rêves de vie, quels les espoirs, les valeurs qu'on peut avoir dans notre vie. Donc c'est un vrai élan de créativité, cette méthode, oui.
Et oui, et on comprend bien pourquoi les rêves, ça marche dans tous les sens. De quoi rêve-t-on? Nos nuits sont-elles plus belles que nos jours, autour de la question de nos rêves et de nos cauchemars? On continue de s'interroger et de rêver à un autre monde. Le groupe Téléphone sur RFI, c'est votre choix. Guillaume Jacquemont. Et on partage sur RFI. Téléphone sur RFI, je rêvais d'un autre monde, c'est votre choix. Guillaume Jacquemont, et on l'approuve. Pourquoi ce choix? Enfin, il y a tellement de chansons sur les rêves.
Ce que je trouvais amusant dans cette chanson, c'est le fait qu'on rêve d'un autre monde et que finalement on se rende compte que cet autre monde, c'est un peu le nôtre. Et les rêves, c'est un peu ça. C'est à la fois un autre monde qui est plein de bizarreries, qui est complètement loufoque et qui est quand même tissé à partir de notre réalité et qui a plein d'influence sur elle, finalement, à travers toutes les fonctions dont on a parlé. Donc, cette proximité-là, je la trouve intéressante.
Entre rêve et réalité, ces rêves qui nous occupent, la science des rêves, c'est le titre du livre que vous avez publié chez Flammarion, Guillaume Jacquemont, et nous avons d'ailleurs un exemplaire à faire gagner à nos auditeurs, chers amis, si vous nous le demandez sur notre page Facebook ou par mail. Et puis, bien sûr, le livre de Benjamin Putois, Manuel de guérison des cauchemars pour enfants et pour adultes, aux éditions Les Arènes. Alors, on a bien compris avec vous deux que nos rêves, c'était à la fois le brouillon du lendemain, sur une manière de digérer ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé, pour préparer la suite aussi, que nos cauchemars ont une influence sur la journée qui suit et que pour s'en débarrasser, pour les guérir, il s'agit de revisualiser pendant la journée ce qui nous traumatise, il s'agit de reprendre la main sur le rêve autour de la question comment diriger ses rêves. Ça, c'est le graal de tout bon dormeur, ça suscite d'ailleurs beaucoup de questions, ça s'appelle le rêve lucide. Alors pour en parler, je propose tout de suite un nouvel éclairage, c'est celui d'une chercheuse que vous connaissez bien tous les deux, elle s'appelle Perrine Ruby, elle étudie à l'INSERM à Lyon le contenu des rêves, mission impossible sauf pour Perrine Ruby, qu'on écoute tout de suite sur le rêve lucide.
Alors le rêve lucide, c'est quelque chose que les gens apprécient beaucoup. Ça définit simplement le fait qu'on prend conscience de rêver au moment où on est endormi et où on fait le rêve. Ça déchaîne un peu les passions parce que c'est une sorte de version 8.0 du jeu vidéo en réalité virtuelle où en fait là on est
dedans, on est dehors, on est partout quoi finalement.
Oui, et puis surtout on a toutes les sensations en vrai en fait. Et ça dont il faut se rendre compte, c'est qu'en fait quand en particulier en sommeil paradoxal, quand vous rêvez que vous courez, votre cortex moteur s'active comme quand vous courez. L'information est bloquée au niveau du tronc cérébral, donc c'est pas que vous imaginez que vous courez, c'est que vous courez vraiment. C'est vraiment ce côté-là, je pense, qui fascine les gens. C'est à la fois le côté « je le vis pour de vrai », et il y a des choses que je contrôle pas, il y a des choses que je contrôle. Du coup, c'est une sorte de jeu vidéo fantastique, 3D, multisensoriel, pour de vrai.
Est-ce qu'on peut l'encourager, ça, justement, parce que ça nous fascine tant ?
Il y a effectivement... Je suis très sollicitée sur cette question-là, à différents niveaux. C'est très difficile à étudier, encore plus que le rêve, parce que c'est assez rare. Ce qu'on a réussi à comprendre à propos du rêve lucide, avec les quelques études qui ont été faites, c'est que c'est une sorte de raté de réveil, en fait. Donc, vous avez une partie du cerveau qui est réveillée, une partie qui reste endormie, et du coup, c'est ça qui explique le mélange de cognition d'éveil et de cognition de sommeil. Et une fois qu'on a dit ça, qu'on sait que c'est un raté de réveil, en vérité, en fait, c'est pas un état qui est censé arriver physiologiquement. Il y a 50% des gens dans la population qui ont déjà fait un rêve lucide, et des rêves lucides fréquents, on tombe vers une dizaine de pourcents de la population. C'est vraiment pas censé marcher comme ça, apparemment. Et moi, je n'irais pas dans le sens de recommander l'entraînement au rêve lucide, parce que toutes les méthodes d'entraînement du rêve lucide, elles ont tendance à déstructurer le sommeil. Elles demandent aux gens de se réveiller régulièrement, plusieurs fois par nuit, et c'est une très mauvaise idée.
Contentons-nous donc de rêver, lucidement ou pas, n'est-ce pas, Benjamin Putois ? Qu'en pensez-vous ?
Je rejoins le docteur Ruby, surtout en matière de traitement des cauchemars. C'est-à-dire si vous souffrez de cauchemars chroniques, de cauchemars réguliers, ça serait vraiment trop perturbateur de faire des méthodes de rêve lucide. Ça serait, je dirais, une peine perdue. À l'heure actuelle, on a à peine deux maigres études sur le sujet et les résultats, en tout cas, sont pas encore là.
Donc c'est pas la peine d'encourager les rêves lucides pour arriver à guérir, à soigner, à souffrir moins de ces cauchemars. Guillaume Jacquemont, c'est tout de même fascinant cette histoire de rêves lucides. Moi j'en ai eu un vague aperçu une fois ou deux, je pense, dans ma vie ou plus dans mes nuits. Mais c'est fascinant de dire qu'on pourrait, il y a des films, hein, Inception et autres, qu'on pourrait maîtriser ses rêves, faire les scénarios qu'on veut.
Oui, tout à fait, c'est un état qui est assez fascinant. On est soudain à l'intérieur du rêve et soudain on se dit je suis en train de rêver et on peut faire à peu près n'importe quoi.
Ah oui, on peut voler, on peut faire ce qu'on veut, quoi.
On peut voler. Alors certains experts, notamment Daniel Herlacher qui étudie ça, dit que c'est pas forcément facile tout de suite de, par exemple, de voler. Il faut déjà se convaincre que effectivement tout est possible, qu'on est dans un rêve.
Ah oui, parce que du coup, on peut avoir la peur comme dans la réalité. On peut ne pas
y arriver, et du coup, il faut parfois un ou deux rêves pour vraiment arriver à faire ce qu'on veut. Mais petit à petit, on finit par y arriver. Et donc voilà, c'est vraiment un état qui est
assez... Et on sait pourquoi, comment, on en sait un peu plus sur ces rêves lucides. Qu'est-ce qui les favoriserait ou pas, hein, une infime partie de la population qui en fait régulièrement.
Voilà, alors on sait en effet un peu plus. Qu'est-ce qu'il... Alors comme le disait Perrine Ruby, le cerveau est un peu dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. Et il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de choses qui peuvent plus ou moins le favoriser. Par exemple, il y a une étude qui a montré que les adeptes de jeux vidéo en faisaient un peu plus parce qu'ils ont l'habitude d'être immergés dans un monde virtuel et donc ils le reconnaissent finalement plus facilement.
D'accord.
Et donc ensuite, il y a toutes ces techniques qui permettent de favoriser ça. Alors effectivement, certaines, il faut en effet rappeler qu'il faut toujours faire attention à son sommeil parce que bien dormir, c'est que c'est vraiment capital pour
c'est
la santé.
Précieux,
ça, il y a.
Ouais.
Il y a toute une série d'études qui l'ont montré.
Ouais. Essentiel et qu'aujourd'hui, on est beaucoup sollicité, donc vous n'êtes pas en rajouter. Essayez de faire attention à son sommeil. On arrive à la fin de cette émission et de cette science des rêves. Vous en attendez quoi, Guillaume Jacquemont, ou qu'est-ce qui vous a, vous, le plus frappé?
Moi, ce qui m'a, c'est plusieurs choses. C'est déjà le rêve lucide. Donc, en ayant participé à des expériences, j'ai finalement réussi un petit peu après à en faire, et c'était une expérience assez inoubliable.
Ça vous a plu?
Je recommencerai. Et ensuite, tous ces raisonnements sur ce que veulent dire les rêves, qui sont finalement un peu spéculatifs, un peu explorés par différents chercheurs, mais cette façon de se souvenir de ses rêves et de s'interroger sur ce qu'ils veulent dire, sur pourquoi on a rêvé de telle ou telle chose, je trouve que c'est vraiment à la fois très amusant et très instructif.
Une porte ouverte, une fenêtre sur les rêves, tiens, pour reprendre le titre du livre d'Isabelle Arnulf. Benjamin Putois, pour terminer, vous attendez quoi, vous, de cette science des rêves et en tout cas de cette science autour des cauchemars, hein, puisque maintenant vous arrivez à partager des méthodes qui permettent de les guérir ou de moins en souffrir?
La science des rêves permet de mieux comprendre que les rêves peuvent faire mal. Ils font mal à des personnes, des adultes, des enfants. Cette science des rêves permet aujourd'hui d'attester le fait qu'on peut en guérir. Ça, c'est un point particulièrement important. Et puis, votre émission l'a tellement bien souligné, cette capacité merveilleuse qu'ont les êtres humains à imaginer. On peut dire le pire comme le meilleur.
C'est ça. Et on retiendra grâce à vous que les rêves nous permettent de digérer tout ce qui nous arrive. Merci infiniment, Benjamin Putois, d'avoir été avec nous par téléphone. On vous a gardé et on en est ravis. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices qui vivaient loin d'ici. Donc votre ouvrage s'intitule « Manuel de guérison des cauchemars » et il est publié aux éditions des Arènes. Merci Guillaume Jacquemont d'avoir été en direct, en présentiel, comme
on
dit aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, très complet, une vraie Bible, dont nous avons aussi un exemplaire à vous faire gagner. Chers amis qui nous écoutez, c'est La science des rêves et c'est publié chez Flammarion. Je signale aussi à nos amis téléspectateurs la diffusion ce soir sur la chaîne Arte du documentaire de Thierry Robert, Dormir à tout prix, également édité en DVD. Merci à tous les deux et on nous souhaite de beaux rêves. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de nos rediffusions estivales et des meilleurs moments de l'année écoulée, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro. Merci pour votre curiosité, chers amis auditeurs et internautes. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Dans quelques instants, ce sera l'heure de retrouver les informations sur RFI.
Bienvenue au théâtre.
Le théâtre.